France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et nous commençons ce matin par ces premiers résultats qui tombent au compte-gouttes aux États-Unis. Résultats du Super Tuesday, grande primaire dans 14 États en même temps. Une étape d'ailleurs cruciale pour l'investiture démocrate. Et pour le moment, c'est Joe Biden qui vire en tête de cette journée. L'ancien vice-président de Barack Obama, un modéré, est donné vainqueur pour le moment dans 7 États. Bernie Sanders, plus à gauche, remporterait lui 3 États. Il reste encore de nombreux dépouillements, notamment dans les grands États que sont le Texas et la Californie. Les Européens paraissent beaucoup moins divisés que lors de la crise migratoire de 2015. Face à l'ouverture des frontières turques, il existe aujourd'hui une unanimité tacite pour préconiser l'ordre dans les pays frontaliers et aux frontières extérieures de l'Union européenne. La visite hier à la frontière gréco-turque des présidents des 3 institutions européennes en a d'ailleurs été un symbole tangible. Priorité donc au budget pour la Grèce notamment et à l'agence Frontex. Alors qu'il y a quelques jours, je vous le rappelle, les frontières turques ont donc été ouvertes. Pour la 2e journée consécutive en Chine, l'épidémie de coronavirus marque une progression bien plus faible qu'auparavant. En Corée du Sud, en revanche, la propagation est toujours aussi forte avec 500 nouveaux cas. Aux États-Unis, le bilan est désormais de 9 morts. En Europe, l'Espagne a annoncé hier soir un premier décès. L'Italie en compte déjà 79 sur son territoire. Et puis 4 morts en France, où au total 212 personnes sont contaminées officiellement. Les conséquences sur le tourisme ont déjà lieu. En France, moins 20% sur les réservations d'hôtels. Selon le président Emmanuel Macron, le pays est entré dans une phase qui va durer des semaines et sans doute des mois. Les ministres européens de l'Intérieur ont convoqué une réunion d'urgence cet après-midi à Bruxelles. Et puis des débats jusqu'au début de la nuit pour une conclusion attendue. Les 2 motions de censure de l'opposition n'ont pas été adoptées hier soir, faute de majorité. La réforme des retraites est donc adoptée grâce à l'article 49.3 de la Constitution. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30.
L'actualité de bon matin sur France Culture, Guillaume Erner.
La Turquie a agité la menace de l'arrivée de millions de migrants en Europe après l'ouverture de ses frontières. On en parle ce mercredi dans les matins.
Les matins de France Culture, ce mercredi dès 7h et sur franceculture.fr. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, France Culture explore les territoires de demain à conjuguer au féminin. Xavier Mauduit, le cours de l'histoire du lundi au vendredi à 9h05.
Femmes révoltées, une histoire à réinventer. Mais où sont passées nos héroïnes? Celles qui combattent par la plume, par la parole, par les actes et par les armes. Nous nous intéresserons aux voix féminines que peut prendre la révolte, depuis les insolentes adolescentes jusqu'aux femmes savantes.
Féminisme, les conquêtes de demain jusqu'au 12 mars sur France Culture et sur franceculture.fr.
Et à 6h03 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, à la radio ou en podcast. Mes 2 invités ce matin sont Anastasia Mikova, journaliste et co-réalisatrice avec Yann Arthus-Bertrand du film Woman, qui sort aujourd'hui au cinéma, un documentaire qui donne la parole aux femmes du monde entier, des femmes de générations différentes qui évoquent face caméra leur enfance, la découverte de leur sexualité, les inégalités dont elles sont victimes. Et également présente avec nous la réalisatrice égyptienne Marianne Khouli, qui dans son dernier film, Let's Talk, revient sur l'histoire de sa mère qu'elle tente d'analyser pour pouvoir la raconter à sa fille. Enquête familiale pour cerner ce que les femmes transmettent de génération en génération. Et c'est aussi un film sur le poids des traditions et le prix à payer quand on veut s'en émanciper. Let's Talk et Woman, 2 films où les femmes prennent la parole pour questionner leur place dans les sociétés d'aujourd'hui. 2 films à voir.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma. Light of
the chain. I love being a woman. I've always loved being a woman. And I was a pretty little girl.
I'm a happy, strong, crazy woman.
Mina jiona kabisa niko mwanamke. Na mimi naona kabisa mimi naistahili kwa ile hali yangu ya kianamke. Nasikia bien.
Mi-ar trebui o zi întreagă ca să vă spun jumătate din calitățile pe care le am.
Bonjour Anastasia Mikova.
Bonjour.
On vient d'entendre un extrait de votre film, ce film que vous co-réalisez avec Yann Arthus-Bertrand qui sort aujourd'hui, Woman. L'idée était de donner la parole aux femmes sans les questionner, les laisser parler sur des thèmes que vous avez choisis, c'est-à-dire leur place dans la société, mais depuis leur enfance, la découverte de leur sexualité, leur place dans une famille, leur place dans une société, leur place dans le monde du travail. D'où vient cette idée? Je suppose que c'est après le tsunami MeToo que vous avez peut-être eu envie de... Ah, vous me dites non.
Bien avant.
Alors, ouais, très bien. Alors, bien avant.
En réalité, c'est notre précédent film Human, sur lequel on travaillait déjà avec Yann Arthus-Bertrand et pour lequel, pour le coup, on avait interviewé des hommes, des femmes, des enfants dans le monde entier, qu'on a eu l'idée de se concentrer sur la parole féminine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'avais fait beaucoup d'interviews de ce film-là déjà à l'époque. Il y avait quelque chose qui m'avait frappé sur le terrain. Quand on arrivait dans un pays et dans des endroits où il y a 15 ans, pour le coup, ça fait longtemps que je fais ce métier, c'était impossible de trouver une femme prête à parler devant la caméra à visage découvert. En plus, on a une façon de filmer qui est vraiment très proche. On ne filme que le visage, donc tu peux pas te douter que c'est vraiment la personne. Tu peux pas, voilà, te tromper. Eh bien, c'était impossible dans beaucoup de pays. Et là, d'un coup, il y avait des femmes qui venaient à nous. Alors, elles n'étaient pas des milliers, mais il y avait des femmes qui venaient à nous et qui disaient « Je veux partager mon histoire. Je veux raconter ce que je suis en train de vivre. » Et là, en rentrant de ces tournages, moi, j'en ai parlé avec Yann. Je lui ai dit « Écoute, quelque chose est en train de se passer. Les femmes ont envie de prendre la parole. C'est même devenu un besoin. Donc je pense qu'il faut qu'on crée une fenêtre et qu'on leur offre cette possibilité. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et justement, vous parliez de MeToo, c'était presque 2 ans avant MeToo, avant l'affaire Weinstein et toutes ces affaires dont on parle dans les médias quasi quotidiennement maintenant. Et c'est pas pour dire qu'on était là avant, c'est pour dire que c'était déjà là avant. En fait, les femmes, elles étaient déjà prêtes. Il fallait juste des oreilles qui les écoutent.
C'est ce que vous nous proposez, parce que c'est un film de cinéma. On voit les visages des femmes, et ce qui est fort, c'est la parole. La parole est au centre de ce dispositif, et on n'entend pas les questions en réalité. On a l'impression que ces femmes viennent se confier à nous.
C'est exactement ça. D'ailleurs, la façon dont on travaille est beaucoup plus proche d'une psychanalyse que d'une interview classique. Et ce sont des entretiens. Alors, la façon dont c'est construit, ce sont des petits extraits de chaque entretien qui construisent ensemble une grande histoire de qu'est-ce qu'être une femme dans le monde aujourd'hui. Mais en réalité, chaque extrait vient d'un entretien qui dure entre 2 et 3 heures. Donc la clé dans tout ce qu'on fait, c'est le temps. Parce que justement, quand tu vas aller sur des sujets aussi intimes, quand tu vas aborder des choses aussi personnelles, la plupart de ces femmes n'en ont jamais parlé, parfois même avec personne de leur vie, de leur entourage. Et là, elles se racontent pour la première fois, tout ça demande beaucoup de temps. Et on ne voulait surtout pas être là et prendre une place, nous, trop importante. On voulait que leur parole soit au centre. Et d'ailleurs, on a fait le choix de ne donner aucune info sur toutes ces femmes. Donc la présidente de l'ONU est également exactement au même niveau qu'une femme qui fait le ménage ou une femme qui conduit un bus, etc.
Il y a des ministres, il y a des députés, mais il y a effectivement des paysannes. Il y a toutes les catégories sociales. C'est vrai que c'est au fur et à mesure qu'elles parlent, ces femmes, qu'on essaye de deviner d'où elles viennent, parce qu'il y a tous les pays. Mais quelles sont les questions que vous avez préparées? Parce que là, on a quelques thèmes qui sont abordés.
C'était très intéressant parce que justement, nous, avec Yann, pendant la première année, la production a duré presque 4 ans. Donc, c'est pour vous donner une idée, voilà, pour faire un film. C'est très long pour un film documentaire. Et la première année, on s'est beaucoup posé la question des thèmes, des choses à aborder. Et puis, moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens, moi, toute seule, pour voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et après la deuxième année, on a eu 5 journalistes qui ont travaillé avec nous et qui sont aussi partis chacune parler une langue différente, l'arabe, le russe, l'espagnol, etc. Et donc, a fait aussi une partie des entretiens. Et ce qui était intéressant, c'est que donc nous, on avait des idées sur ce qu'on avait envie de raconter. Et après, les femmes nous ont aussi fait comprendre ce qui était véritablement important. Et du coup, on a réadapté je ne sais pas si on peut appeler ça le scénario, mais en tout cas, on a réadapté les questions et l'histoire en fonction de ce qu'on entendait sur le terrain. Et d'ailleurs, c'était très intéressant parce qu'en voyant votre film, ça m'a beaucoup fait penser aux choses qu'on a entendues.
Alors, c'est Marianne Rolli qui t'avait
sur la mer, c'était incroyable ce qu'on a entendu sur la mer. Et vraiment, pour vous dire la vérité, moi, je savais quand même que la place de la mer, c'était important dans la vie des femmes. Mais je ne soupçonnais pas à quel point c'était fondamental. On posait la même question sur le père et la mère. Et une fois sur deux, en parlant du père, les femmes revenaient à la mère. Bon, mon père, oui, mais ma mère, c'était incroyable.
Et comment vous l'expliquez, donc, du coup,
et d'ailleurs,
Anastasia Mikova?
Plus ou moins deux cas. C'était que soit c'était une figure absolument, mais plus qu'importante, vraiment centrale, où il fallait reproduire.
Pour ne pas dire étouffante, ouais.
En tout cas, qui était le modèle suprême qu'il fallait, voilà, auquel il fallait ressembler, etc., et qu'on admirait sans limite. Soit c'était, je ne veux surtout pas être comme elle, je ne veux pas reproduire son schéma, je ne veux pas revivre la même chose.
Donc on a compris, Woman, à la différence fondamentale entre vos deux films, Anastasia Mikova et Marianne Rulli, c'est que vous allez à la rencontre de femmes du monde entier, quand Marianne Rulli a décidé de questionner les femmes de sa propre famille, et de sa place dans sa propre famille. Dans le dossier de presse qui accompagne Woman, Anastasia Mikova, dans ce film que vous co-réalisez avec Yann Arthus Bertrand, vous dites que vous avez interviewé près de 2000 femmes issues de 50 pays.
Oui, c'est assez incroyable.
L'idée, c'était de faire quoi? Quelque chose de représentatif, ou vous êtes plutôt dans l'inventaire?
C'était plutôt d'essayer de se dire, y a-t-il quelque chose d'universel qui nous unit au-delà des cultures, au-delà de toutes ces barrières qui peuvent nous séparer?
Et au-delà des développements économiques aussi.
Et exactement. Au-delà de tout ça, y a-t-il quelque chose qui quand même crée un lien entre nous? Et moi, juste, moi, je peux témoigner à mon échelle personnelle, en étant sur le terrain dans les pays, mais, et devant des femmes qui avaient absolument rien à voir avec moi et ma vie, je me sentais totalement connectée à elle. Et c'était absolument dingue. Voilà, j'étais face à une femme au Bangladesh qui avait vécu des choses, mais rien à voir avec mon parcours. Et pourtant, je ressentais les mêmes émotions. Et je riais aux choses qui la faisaient rire. Et je pleurais avec elle. Enfin, voilà, il y avait un lien invisible. Quand on parle de sororité, c'est peut-être le mot qui se rapproche le plus, s'il y a un mot qui peut définir ça, parce que c'est beaucoup plus en termes d'émotions et de sensations que ça se passe. Et du coup, c'est ce pourquoi on a appelé le film Woman. Mais le A dans le titre devient le E. Parce que finalement, pour nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a ressenti et vécu. C'était comme si, à travers tous ces témoignages, des milliers de témoignages, il y avait toutes ces femmes singulières, mais en même temps, il y avait la femme, et il y avait quelque chose qui dessinait autour de la femme.
Et êtes-vous allée dans votre pays d'origine, Anastasia Mikova? Vous êtes française, vous vivez en France depuis une vingtaine d'années, mais vous êtes d'origine ukrainienne. Êtes-vous revenue sur les terres de votre enfance, ou vous avez évité justement d'y retourner pour ce film?
Alors, on l'avait fait pour Human,
ouais.
Et donc, pour le coup, là, on s'est dit, ok, c'est bien aussi de changer, et on a été juste à côté en Biélorussie, et on a aussi été en Russie, mais pas en Ukraine cette fois-ci.
Alors, quel extrait prendre de Woman? Parce que c'est un film de la parole des femmes. Donc, on a dit la sexualité, l'enfance, mais aussi les violences faites aux femmes. On va écouter peut-être un extrait sur les femmes dans le monde du travail.
Mon premier congé maternité, je l'ai vécu dans une exaltation et une candeur totale. Je ne me préoccupais absolument pas de l'effet que ça pouvait avoir sur ma vie professionnelle. J'étais un super bon élément, ça allait très très bien, pourquoi est-ce que je me serais inquiétée? C'est au retour de mon premier congé maternité que je suis tombée de l'armoire, parce qu'un de mes patrons m'a dit très clairement, tu es effectivement un bon élément, mais tu ne te rends pas compte à quel point ce bébé va changer ta vie, tu vas voir. Donc il m'annonçait déjà quelque chose que je n'étais pas en train de vivre. Et on aimerait bien qu'on puisse compter sur toi, mais il va falloir nous donner des preuves. Et là, au lieu d'être brave, j'ai été paralysée. Mais paralysée, abasourdie. Je ne savais absolument plus quoi dire. Et silencieusement, je me disais, c'est donc comme ça qu'elles savent que c'est fini. Ce qui m'a donné le ressort pour rebondir, c'est un de mes collègues qui a vu que j'étais blême, à qui je suis allée me confier en sortant de cet entretien. Et c'est lui qui a été choqué, pas moi. Moi, j'étais paralysée, mais lui, il a été choqué. Et lui, il me l'a dit. Et lui m'a dit, mais c'est n'importe quoi, c'est révoltant. Donc c'est cet homme-là, c'est ce collègue-là qui m'a donné, finalement, qui m'a remise dans la colère, en fait. Et dans le « c'est pas juste ». Mais sinon, moi, j'avais reçu mon verdict.
J'étais à Casablanca, une grande ville quand même de 3,5 millions d'habitants. Et j'ai décidé de me présenter aux élections législatives. Mais il y avait des scènes extraordinaires, parce que quand je me présentais dans un quartier populaire, Les gens me regardaient avec des yeux abasourdis et couraient, viens voir, viens voir. C'est une femme, elle est candidate, viens voir. Et c'est-à-dire, c'était vraiment casser un tabou. Mais la suite de l'histoire, c'est que j'ai continué à me présenter. Je n'ai pas été élue, bien sûr, parce qu'il y avait zéro femme au Parlement. Mais après, je me suis présentée aux troisièmes élections, aux quatrièmes élections, aux cinquièmes élections, sixièmes. Et ce n'est au bout de la septième, en 1997, donc 21 ans après, que j'ai pu être élue municipale parmi 0,34% de femmes dans les conseils municipaux. Eh bien, il fallait être têtu, et je le suis.
Quand j'ai été nommée ministre, pour la plupart des fois, des réunions où se prennent des grandes décisions se tiennent la nuit. Et en tant que mère de famille, en tant que femme mariée, c'est compliqué pour que la femme arrive jusqu'à plus tard la nuit pour siéger et donner sa contribution dans la gestion du pays. Mais moi, je me suis dit, je veux prouver à tout le monde, d'abord aux femmes, une façon de les encourager à dire que ce n'est pas du miracle. Nous, femmes, nous pouvons. Aux côtés des hommes, nous pouvons. Ou peut-être les hommes aux côtés de la femme, nous pouvons, nous tous.
Voilà un extrait de Woman d'Anastasia Mikova et de Yann Arthus-Bertrand qui sort aujourd'hui au cinéma. Vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qu'une femme aujourd'hui, puisque vous avez décidé de non pas d'interviewer des femmes mères ou pas mères, vous introduisez y compris le transgenre. C'était quoi? Vous vous êtes posé cette question de qu'est-ce qu'une femme aujourd'hui?
C'est précisément la question qu'on s'est posée, oui, en faisant ces entretiens. Et je pense qu'il n'y a pas une réponse unique. Je pense que c'est l'ensemble de toutes ces histoires et l'ensemble de toutes ces femmes qui, quelque part, nous donnent une idée de ce que pourrait être la réponse. Donc, je ne pense pas qu'on puisse le résumer en une ou deux phrases. Mais c'est quelque chose, une fois, en tout cas, c'est très intéressant. On a fait beaucoup d'avant-premières avant de sortir le film en salle. Et c'est incroyable de voir les réactions des femmes dans la salle à chaque fois. Elles se lèvent souvent et elles ont envie de témoigner en disant « mais je me sens fière d'être une femme et je me sens femme en écoutant toutes ces autres femmes. »
Même si on n'est pas né avec le sexe féminin.
Mais oui, parce que je trouve ça magnifique, absolument magnifique ce qu'elle dit, cette femme transgenre. Elle dit, voilà, pour beaucoup de femmes, c'est quelque chose qui est inné. Moi, c'est un cadeau que je me suis offert moi-même. Je trouve ça absolument magnifique. Il y a tellement de femmes qui trouvent que c'est une malédiction, encore aujourd'hui, vu le nombre de difficultés qu'on traverse dans pas mal de pays, d'être une femme, qu'une femme puisse dire, je le suis devenue. C'est un cadeau que je me suis offert, je trouvais ça absolument super.
Vous avez pu tourner dans tous les pays que vous avez choisi, Anastasia?
Alors, justement, c'était très important pour nous d'être transparent et de faire ça de façon très ouverte, parce qu'on voulait surtout pas que ça crée des problèmes pour toutes ces femmes par la suite. On voulait que ce film célèbre les femmes et que ça soit dans tout le processus et jusqu'à la fin une célébration des femmes. Donc il y a des pays, on a toujours demandé les autorisations, aucun pays ne nous a dit non. D'ailleurs l'Égypte nous a jamais dit non, par exemple, pour donner. D'ailleurs on voit bien dans le pays, il y a une partie du monde qui est un peu sous-représentée.
Ouais.
Et voilà, Oman, Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, on a toujours demandé. Ils nous ont toujours dit un papier en plus, quelque chose en plus. Et c'est jamais venu. Donc au bout d'un moment, on comprenait que ça viendrait pas. Et on s'est dit, ok, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore prêts, qu'ils sont pas mûrs, et qu'on va potentiellement exposer les femmes à des conséquences ou à des problèmes par la suite. Donc on ne veut pas être là-dedans. Du coup, on l'a pas fait. Et d'ailleurs, il y a certaines femmes de ces pays qu'on a interviewées à l'étranger, des femmes pourtant qui sont des femmes indépendantes, qui ont plutôt des postes importants, et toutes sont revenues sur leur témoignage par la suite en disant, non, finalement, je ne veux pas que ça soit utilisé.
Anastasia Mikova, co-réalisatrice du film Woman.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
حكي يا راوي حكي حكاية أدبك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على ألف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة وعلى ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية.
Marianne Rolli, Anastasia Mikova disait que le monde arabe était sous-représenté, même s'il faut préciser que les femmes n'étaient pas du tout représentatives de leur pays. Hein, elle parlait plutôt d'elle-même. Dans votre film Let's Talk, est-ce qu'on est en Égypte? Est-ce qu'on est dans un autre monde, un monde disparu, c'est-à-dire le Levant? Parce que votre famille est une famille qui a vécu entre le Liban et l'Égypte. Famille chrétienne, vous avez décidé aussi de questionner le rapport que vous avez avec les femmes de votre famille, et à commencer par votre mère. Une manière aussi d'établir le dialogue avec votre fille. Donc votre documentaire, c'est vraiment une enquête familiale, même si le rôle de la femme est primordial. D'abord, pourquoi vous avez voulu faire ce film ?
Alors là, il y a plusieurs questions là, mais je vais essayer. Moi, je pense que je faisais ce film sans me rendre compte, depuis que j'ai commencé à vouloir faire du cinéma, en fait. Mais je me cachais toujours derrière des autres, derrière des femmes qui m'intéressaient, que je trouvais intéressantes.
C'est vrai que vous êtes l'auteur d'un très beau film sur les pionnières du cinéma égyptien.
Oui, ça c'était mon deuxième film, donc c'était les pionnières du cinéma égyptien. Ensuite, j'étais dans un hôpital psychiatrique où je faisais là, ça veut dire les ombres, où aussi je me cachais derrière les patients. Et je tournais en rond, je ne savais pas ce que je voulais faire exactement. J'avais toutes les archives de la famille, c'est 100 ans d'archives, entre photos, cassettes, des films en 35 mm, des digitales. Donc j'ai tous les formats possibles et imaginables. Et je ne savais pas ce que je voulais faire exactement, jusqu'au jour où ma fille a commencé à me poser des questions et à me dire, en fait, moi je sens qu'elle n'avait jamais rencontré ma mère, comme ma mère est décédée bien avant qu'elle ne naisse. Mais elle se sent très connectée à ma mère. Et donc, elle m'a dit, moi, je ressemble beaucoup à ta mère, en fait. Je ne te ressemble pas à toi. Et c'est qui cette femme? Raconte-moi, c'est qui cette femme? Et donc, c'est elle qui m'a facilité ce travail pour parler de ma mère, en fait. Pour poser des questions. Voulais parler de ma mère, parce que ma mère m'intriguait, en fait. C'était un personnage assez
Pour incroyable. Aller très vite, et je vais aller très vite, votre mère, elle n'était pas émancipée, et pourtant on va voir cette femme qui est très jolie, qui aurait pu avoir une carrière au cinéma, qui est très entourée, qui est très forte au poker, parce qu'il y a tous ces documents que vous montrez dans votre film, Marianne Rolli, et bien cette femme, elle va se sacrifier d'abord pour son petit frère, un certain Youssef Chahine. La famille n'a pas beaucoup d'argent, et quand il s'agit de faire un choix, est-ce qu'on envoie le garçon faire ses études aux États-Unis pour devenir cinéaste, ou est-ce qu'on marie la fille qui avait elle aussi une envie de s'émanciper? Non seulement on choisit le garçon, mais avec la bénédiction de la sœur, avec la bénédiction de votre mère. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans votre enquête familiale, il y a une question qui revient et qui vous taraude. Elle m'a aussi donné vie, et en me donnant vie, elle a laissé de côté d'autres rêves. Même si cette question que vous posez à votre fille, et des fois cette question devient...
Elle pèse.
Oui, elle est pesante, c'est même l'élément dramaturgique. Parce qu'à un certain moment, vous dites, est-ce qu'il faut vraiment tuer une personne pour que l'autre puisse vivre?
Ouais, enfin ma mère c'était, comme vous avez dit, une très, très belle femme qui aurait pu faire plein de choses, mais je ne pense pas qu'elle se soit posée elle-même la question. Elle ne s'est pas posée la question, est-ce que je peux faire autre chose? Est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Elle a vécu. Elle a eu des enfants, elle a eu une vie sociale très riche. Les deux étaient dans le cinéma, c'est ça le paradoxe, le frère et le mari. Mmh. Et donc, elle ne s'est même pas posé la question. Elle n'avait pas envie de jouer dans le cinéma, comme ma tante l'a dit d'ailleurs. Elle ne se rendait pas compte qu'elle pouvait être bonne actrice, malgré que c'était l'amie des très grandes divas égyptiennes à ce moment-là, parce que c'était les années d'or du cinéma égyptien. Et d'ailleurs, on disait que ma mère ressemble beaucoup à l'actrice italienne Anna Magnani, qui a des origines d'Alexandrie, apparemment. Donc elle a cette gueule. Ma mère a cette gueule.
Mais la question que vous vous posez, parce qu'à un certain moment, vous vous dites, est-ce qu'elle a voulu de moi, cette femme? Est-ce qu'elle a été stoppée dans son émancipation, même si le mot n'était pas utilisé à l'époque, pour fonder une famille? Est-ce que vous avez eu une réponse à cette question?
Non, mais même si elle ne me voulait pas, je ne pense pas que ce soit ça la cause de mon malaise. C'est beaucoup plus compliqué dans le film, parce que je fais une psychanalyse, en fait.
Ouais.
Donc, oui, je ne sais même pas si elle voulait des enfants. Elle en avait eu deux garçons. Elle disait toujours, si j'ai un troisième, je veux un garçon, et non pas une fille. Et c'est pour ça que moi, j'ai grandi avec l'idée que ce n'était pas bien d'avoir une fille, jusqu'au jour où j'ai eu une fille, et j'ai découvert ce que c'était d'avoir une fille. C'est magnifique.
Ouais.
J'avais un garçon, et puis je me suis dit, allez, un deuxième, et même Youssef Chahine me l'avait dit, m'a dit, tu dois choisir, en fait. Ou bien tu vas faire des films, ou bien tu vas avoir une famille. Et tu dois choisir, tu ne peux pas faire les deux. Et moi, j'étais têtue. Et j'ai voulu faire les deux. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps.
Anastasia Mikova, réaction ? Qu'on vous entend ?
Moi, j'ai toujours pas d'enfant. Et c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Et oui, j'imagine que pour une femme cinéaste, franchement, c'est des questions qu'on se pose tout le temps.
Et toi, tu t'es bouleversée ou
pas ? Oui. J'étais bouleversée, mais comme j'étais enceinte, j'ai pas laissé le bouleversement Elle avait rencontré ton père.
Un extrait de Let's Talk, le dernier film de Marianne Joly. Là aussi, un film de parole, un film où les femmes parlent des femmes. Dans le cas du film de Marianne Joly, qui sera projeté en avant-première française à Lima ce 10 mars, à l'occasion du 8 mars, je suppose. Et le film de Yann Arthus-Bertrand et de Anastasia Mikova, Woman, qui sort aujourd'hui. Les hommes qui vous entourent, les hommes qui vont venir témoigner, ou dans le film Woman, ils ont réagi comment à ces paroles de femmes ?
C'est très intéressant d'ailleurs la réaction des hommes de façon générale. Ouais. Voilà, Yann, c'est un homme public, 74 ans, qui a une grande carrière, et très souvent, là pour le coup je peux le dire à sa place parce qu'il le dit, il l'assume entièrement, il le dit souvent, ce film l'a complètement changé et a transformé sa vision des femmes, et il s'est rendu compte à quel point les femmes de sa vie avaient été importantes et essentielles, et à quel point il avait sous-estimé leur rôle pendant toute son existence.
Et vous, vos frères?
Moi, mon cas,
ils ont tout essayé pour que le film ne se fasse pas.
Ouais, c'est-à-dire que je pense qu'ils étaient très gênés.
Mais parce qu'on parle de l'intime, on parle de la famille.
Parce qu'on parle de l'intime et parce que leur relation au cinéma n'est pas la même. D'ailleurs, j'ai filmé ça. J'ai voulu le filmer aussi. Mon frère aîné qui dit ça intéresse personne, ces histoires, c'est des choses intimes, mais je pense qu'il ne faut pas raconter ça au public. Mon autre frère qui pensait être confortable au début, et puis il a été gêné quand il a vu le film. Et d'ailleurs, on n'a pas encore eu cette discussion sur les effets du film. C'est-à-dire que je pense que ça va prendre du temps, mais c'est sûr que le film a été un déclencheur pour changer plein de choses. Donc il y a une gêne. Avec mon fils, c'est différent. Je pense que le film nous a beaucoup réconciliés et que ça a eu un effet positif sur lui parce qu'il a su beaucoup de choses qu'il ne savait pas d'ailleurs. Et donc je pense qu'il y a une conversation comme ça qui se passe entre nous sans vraiment la parole.
Et le succès inattendu de ce film en Égypte, ah oui. Comment il est perçu ?
Ça, c'est extraordinaire pour moi d'ailleurs parce que j'essaye d'aller autant que possible aux projections et d'avoir ce contact avec le public, parce que je réalise à quel point les gens s'identifient au film. En fait, au début, ils pensaient qu'ils allaient voir les scandales de la famille et je ne sais plus quoi, et puis qu'au bout d'un quart d'heure, ils ne voient plus rien de cette famille et ils se regardent eux, ils se projettent eux-mêmes. Et ça, je l'ai senti avec beaucoup de gens, des gens d'âge différents, des filles de 20 ans, des femmes de 60 ans, même des hommes. Et donc, ça me touche énormément.
Et puis pour les cinéphiles, ceux qui aiment le cinéma de Youssef Chahine, il y a autre chose dans ce film, c'est-à-dire qu'on voit comment votre oncle, disparu il y a maintenant plus de 10 ans, a su raconter cette histoire en passant par la fiction, parce qu'on a aussi bien les extraits des films autobiographiques de Youssef Chahine, que les archives et les interviews que vous avez menées. Merci beaucoup Anastasia Mikova, merci beaucoup Marielle Joly d'être passée ce matin.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Le film Woman de mon invité Anastasia Mikova, co-réalisé avec Yann Arthus-Bertrand, sort aujourd'hui au cinéma. Et le film de ma deuxième invitée, Marianne Joly, Let's Talk, sera projeté en avant-première parisienne ce 10 mars à l'Institut du Monde Arabe. Cette émission a été préparée avec Corinne Amar, avec à la prise de son ce matin Cindy Le Grumelec. Et c'est une réalisation de Vincent Abouchard. On arrive à la parité, c'est fou. Et c'est pas uniquement parce que le 8 mars pointe son nez. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec France Culture.
France Culture.
L'esprit d'ouverture. Un roi sans divertissement sur France Culture. Roman policier, récit psychologique, plongeant dans les zones d'ombre de l'âme humaine, l'ennui existentiel, la fascination exercée par le mal, un jeu de pistes sur fond de neige éclaboussé de sang.
On ne sait pas exactement la date, mais enfin 15, 16 ou 17. C'est un de ces trois jours-là, le soir, qu'on ne trouva plus Marie Chazotte.
Qui aura le dernier mot ? Un roi sans divertissement de Jean Giono, à l'occasion des 50 ans de sa disparition. Le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr. Sur France Culture à 18h10, c'est le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
De tous les mandats électifs, celui de maire est, dit-on, le plus respecté. Pourtant, depuis le développement des intercommunalités, le pouvoir des maires s'est déplacé et les candidats pour le devenir sont chaque année moins nombreux. Le temps du débat se demande ce que les maires, aujourd'hui, peuvent faire dans le domaine du logement, de la santé et des transports.
Le temps du débat, ce mercredi, est sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La réforme des retraites est passée à l'Assemblée nationale grâce au 49-3 que les motions de censure de l'opposition n'ont pas réussi à bloquer hier soir. Elles ont été rejetées par la majorité présidentielle, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, nous nous pencherons sur les craintes des producteurs de spectacles qui sont annulés les uns après les autres en France. L'épidémie de coronavirus pourrait durer des mois, prévient déjà Emmanuel Macron. Une réunion sur l'immigration en Europe se tiendra cet après-midi à Bruxelles. Des milliers de migrants tentent toujours d'entrer en Grèce depuis la Turquie. Et puis Joe Biden réussit plutôt bien les débuts du Super Tuesday aux États-Unis. Grande primaire démocrate dans 14 États. Nous ferons le point sur les premiers résultats. Les deux motions de censure déposées contre le gouvernement ont donc été rejetées tard hier soir à l'Assemblée nationale après un long débat. L'opposition, à droite et à gauche, voulait dénoncer l'utilisation du 49-3 par le Premier ministre pour faire adopter la réforme des retraites sans vote. Réforme qui est donc passée dans la foulée hier soir à l'Assemblée car les troupes macronistes semblent avoir fait bloc Yannick Falt.
Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche, avait prévenu
« Il ne manquera pas une voix, non pas pour la voter, mais pour la dénoncer et dire avec force que votre motion de censure, c'est une motion de posture. »
L'ensemble des députés marcheurs et apparentés qui votent contre les deux motions de censure déposées hier, l'une de droite, l'autre de gauche, pas une voix qui manque effectivement. C'est l'avantage paradoxal du 49-3, sourit un membre de la majorité, ça soude les troupes. De quoi valider la stratégie du Premier ministre qui a sciemment laissé du temps au débat et à l'obstruction pour ne pas brusquer les députés macronistes, se réjouit l'entourage d'Edouard Philippe, pour qui c'était un 49-3 de soutien à la majorité. Pas un 49-3 autoritaire. Voilà pour la face émergée de l'iceberg, mais les fissures se multiplient sous la ligne de flottaison. Trois nouveaux élus qui claquent la porte cette semaine en raison de ce passage en force, une débâcle annoncée au municipal, la création possible d'un 9e groupe parlementaire, un éventuel remaniement et une probable crise à la tête du parti. L'image de la majorité ressoudée pourrait être vite balayée par de fortes turbulences.
Et pendant ce temps, le nouveau coronavirus a fait un 4e mort en France, un homme âgé de 92 ans. 212 cas au total sont confirmés sur le sol français. Cela pourrait durer des semaines, voire des mois, prévient le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui annonce également réquisitionner tous les stocks et la production de masques de protection. Les rassemblements de plus de 5000 personnes sont toujours annulés au cas par cas sur demande du gouvernement. Rassemblements qui sont dans un espace confiné du type salle de spectacle. Et cela a déjà des conséquences non négligeables sur l'industrie musicale. Les tournées sont bouleversées. Écoutez à ce propos le producteur de Maître Gims, un rappeur et compositeur congolais très connu en France. La tournée est entièrement reportée au mois de juin et de juillet, Anne Lamotte.
Claude Sandecki est un producteur inquiet.
Je ne sais pas ce qui va se passer. En fait, je ne sais pas ce qui va se passer.
À la tête de Cheyenne Productions, il est en charge de la tournée de Maître Gims. Et il a déjà tout payé. L'artiste, les salles, les décors, le marketing ou encore l'affichage. Tout spectacle confondu, Gims et les autres, Claude Sandecki explique avoir avancé plus de 6 millions d'euros. Et si on passe au stade 3 de l'épidémie...
Si on passe au stade 3, ça devient vraiment une catastrophe pour mon métier. Pour notre industrie.
Car au stade 3, quelles salles devront fermer ? On verra à ce moment-là, répond-on au ministère de la Culture. Mais si Maître Gims annule ne serait-ce qu'un zénith, Claude Saint-Déqui, assuré pour catastrophe naturelle, ignore ce qu'il pourrait récupérer. Et il sait que des centaines d'emplois seraient impactés.
C'est des hommes qui font la sécurité, c'est des placeurs, c'est des hôtels, c'est des contrôleurs, c'est des pompiers, c'est des infirmiers, c'est des hôtels qui nous reçoivent nos artistes le soir pour le spectacle, c'est des restaurateurs, c'est tellement d'entreprises, et fait vivre tellement de personnes et tellement d'hommes. Quoi.
Et ce n'est pas la billetterie, seule façon pour nous de vivre, assure-t-il, qui pourrait compenser.
Là, c'est mort. On ne vend pas un billet depuis vendredi dernier. Waouh !
Après l'attentat du Bataclan en novembre 2015, la crise des Gilets jaunes 3 ans plus tard et la grève dans les transports en décembre dernier, le coronavirus pourrait nous faire très mal, conclut le producteur, sachant que 80% des entrepreneurs du spectacle en France seraient à la tête de très petites entreprises.
C'était Anne Lamotte pour France Culture. Notons que ce mercredi, Emmanuel Macron a convoqué à l'Élysée 2 conseils de défense. L'un sera consacré au coronavirus, l'autre à la crise en Syrie. Crise, il y a aussi aux portes de l'Europe en ce moment. Depuis que la Turquie a ouvert ses frontières aux migrants, dont beaucoup viennent de Syrie, ils se massent à l'entrée de la Grèce par milliers depuis des jours. Cet après-midi, les ministres de l'Intérieur européens vont se retrouver à Bruxelles pour tenter de trouver en tout cas une solution. A priori, tout le monde est d'accord pour une fois, Pierre Benazet.
Les Européens paraissent beaucoup moins divisés que lors de la crise migratoire de 2015. On se souvient de la levée de boucliers en Europe centrale face à la proposition de répartir dans l'UE les réfugiés par quota, ou encore des critiques essuyées par la chancelière allemande Angela Merkel pour avoir décidé d'ouvrir ses frontières aux réfugiés. Il existe aujourd'hui une unanimité tacite des Européens pour préconiser que l'ordre soit maintenu sur la frontière extérieure de l'Union. La visite hier à la frontière gréco-turque des présidents des 3 institutions européennes en est un symbole tangible. L'Union européenne démontre sa solidarité avec le gouvernement grec qui ferme ses frontières. La priorité est donc le budget de 700 millions d'euros annoncé pour la sécurisation des frontières grecques et le renforcement de la mission en Grèce de Frontex, l'agence de garde-frontières et de garde-côtes de l'UE. Mais pour l'essentiel, les Européens doivent surtout chercher une solution politique avec la Turquie. Elle pourrait passer par une réactivation des accords euro-turcs de 2016. Peut-être devront-ils en passer par le versement direct à la Turquie du restant des 6 milliards d'euros promis en 2016 et qui jusqu'ici étaient versés via des projets humanitaires. En revanche, l'idée du président turc Recep Tayyip Erdogan d'une zone de sécurité autour d'Idleb, sponsorisée par l'UE, ne semble susciter aucun enthousiasme chez les 27.
Nous reviendrons sur ce chantage turc dans moins de 5 minutes avec le journal des idées. Aux États-Unis, le marathon des primaires démocrates se poursuit à 8 mois de la présidentielle. 14 États américains ont voté pour le Super Tuesday, un mardi qui s'achève outre-Atlantique en ce moment, avec un duel serré entre Joe Biden et Bernie Sanders. Nous retrouvons Isabelle Raymond, notre envoyée spéciale. Isabelle, les résultats sont en train de tomber peu à peu.
Oui, et il tombe surtout dans l'escarcelle de Joe Biden. Pour l'instant, l'ancien vice-président d'Obama a réussi son pari, capitalisé sur le succès de ce week-end en Caroline du Sud, puisqu'il remporte pour l'instant 8 États, donc plus de la moitié de ceux en jeu pour ce Super Tuesday, grâce notamment au vote afro-américain des États du Sud, l'Alabama, le Tennessee, mais aussi l'Oklahoma, l'Arkansas ou encore le Massachusetts, l'État d'Elizabeth Warren. C'est une bonne soirée, a-t-il déclaré. On l'appelle pas le Super Mardi pour rien. Autre enseignement de ce Super scrutin, les centaines de millions de dollars dépensés par le milliardaire Michael Bloomberg n'ont pas réussi à lui assurer une place, puisqu'il n'a remporté aucun État. Et puis Bernie Sanders, pour l'instant, a remporté 3 États, le sien, du Vermont, le Colorado et l'Utah. On attend encore notamment le Texas, la Californie aussi. Et puis rien ne dit surtout qu'un candidat se dégagera dès ce Super Tuesday.
Car effectivement, le Texas et la Californie sont 2 gros pourvoyeurs de députés et pourraient donc tout rééquilibrer. Merci beaucoup Isabelle Raymond depuis New York pour France Culture. Au chapitre électoral encore, on attend les résultats définitifs des élections israéliennes qui se sont tenues avant-hier lundi. Mais Benjamin Netanyahou est déjà crédité de 59 sièges alors que la majorité absolue est de 61. Le Premier ministre sortant va donc devoir consulter pour trouver une coalition. Il doit aussi se préparer à un autre rendez-vous fixé par un autre calendrier. Il s'agit de l'ouverture de son procès pour corruption. Il est prévu à Jérusalem le 17 mars prochain, Frédéric Mettezo.
Le 17 mars est aussi la date limite à laquelle le président d'Israël devra désigner un formateur, c'est-à-dire la personne ayant le plus de chances de composer le prochain gouvernement avec la majorité la plus large à la Knesset. Netanyahou peut-il être désigné formateur? C'est un mandat spécial à part entière, tout en étant inculpé et bientôt jugé. La loi est claire, il peut demeurer Premier ministre, mais comme Israël n'a jamais connu de formateur mis en examen, la Cour suprême devra se prononcer dans la quinzaine. La plus haute instance israélienne avait déjà été saisie à la fin de l'année passée. Elle avait laissé passer le scrutin, mais là, il faut trancher. Et hier, une ONG israélienne l'a aussi saisie sur le statut du Premier ministre. Est-il vraiment possible de gouverner tout en étant jugé, vu le nombre d'heures à passer au tribunal ou bien avec ses avocats? Et comme le droit israélien est inspiré de la common law anglo-saxonne beaucoup plus souple que le droit constitutionnel à la française, un changement de jurisprudence est toujours possible. Voilà pourquoi Netanyahou et ses alliés nationalistes et religieux espèrent former leur coalition au plus vite et réformer rapidement la Cour suprême pour l'empêcher de prendre des mesures qui seraient déraisonnables pour l'exercice du pouvoir. Le compte à rebours est lancé.
C'était Frédéric Mettezo pour France Culture. Revenons en France métropolitaine pour quelques mots de météo avec un ciel couvert aujourd'hui sur la façade atlantique jusqu'aux Pyrénées. Des pluies régulières vont s'installer jusqu'à ce soir et se décaler vers l'est avec 5 degrés ce matin à Strasbourg et à Lille, 6 degrés à Paris, 13 à Nice. Il est 6h40 et sur France Culture, c'est l'heure du journal des idées. Avec vous, Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Jacques, nous l'évoquions dans le journal des informations. Le chantage aux migrants exercé par la Turquie place les Européens devant leurs responsabilités.
Et oui, la Turquie, qui abrite plus de 3 millions de réfugiés syriens, exige de l'Europe une révision des conditions de gestion humanitaire et financière. Et sur le plan militaire, elle essaie d'obtenir de l'OTAN la fourniture de missiles Patriot, sans succès. Dans Le Monde, Piotr Smolar et Jean-Pierre Strauban observent que malgré les images dramatiques de Grèce, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés évoquait l'arrivée de 1200 personnes dans les îles grecques de Lesbos, Chios et Samos les 1er et 2 mars. Il y a manifestement des mouvements migratoires vers la Grèce et la Bulgarie qui ne sont pas spontanés, relève une source diplomatique française. Il concerne d'ailleurs des migrants déjà présents sur le territoire turc et qui ne sont pas tous syriens. L'accord conclu en mars 2016 entre Ankara et Bruxelles prévoyait quelques mesures complémentaires au versement de 6 milliards d'euros au total pour des projets humanitaires, comme des facilités pour les voyageurs turcs se rendant dans l'Union européenne. Un deal 1 plus 1 indiquait quant à lui que pour un migrant irrégulier renvoyé de Grèce vers la Turquie, un demandeur d'asile syrien serait installé dans l'Union européenne. Le système, selon Bruxelles, a fonctionné correctement. Avant l'accord, le nombre de réfugiés syriens s'élevait à 1 million. Dans l'année qui suivit, il retombait à 26 000. Mais, comme l'indique Marc Pierini dans La Croix, les dirigeants turcs voulaient croire que les enveloppes successives alimenteraient directement leur budget, alors qu'elles étaient destinées à une centaine d'organisations humanitaires et directement au ministère de la Santé et de l'Enseignement sous pression. Pour le chercheur associé auprès de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, c'est la dégradation de la situation politique de Recep Tayyip Erdogan en interne et en Syrie qui fragilise l'accord. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, arrivé hier à Ankara, devrait évoquer une aide aux déplacés d'Idlib dans une zone tampon côté syrien le long de la frontière avec la Turquie, ce qui n'est possible qu'à la condition d'un accord de cessez-le-feu, lequel dépend de la rencontre prévue jeudi entre les présidents turcs et russes. Adrien de Suin appelle dans le Figaro Vox les pays occidentaux à ne pas céder à la pression migratoire exercée par les Turcs. Le responsable des questions diplomatiques à la Fondation du Pont Neuf estime que la France et l'Europe en général disposent de toutes sortes de leviers qui peuvent aller de la rupture des relations diplomatiques aux sanctions économiques, la suspension de l'OTAN, la clôture des négociations d'adhésion à l'Union européenne et la fin des nombreuses aides budgétaires qui vont avec. Le régime d'Erdogan n'a aucune leçon de démocratie à donner aux Syriens et aux Russes. Il persécute les minorités depuis trop longtemps et singulièrement la minorité kurde, écrit-il. Quant à l'Union européenne, elle ne peut plus tout à la fois se montrer coupable de non-assistance à 900 000 personnes en danger, laisser les conflits se multiplier à ses frontières et finir par se laisser entraîner elle-même dans ce qu'elle craint tant, le retour de l'histoire et des guerres, juge Bernard Guetta dans les pages idées de Libération. Le député européen souligne qu'à 27 États et même 28, si la Grande-Bretagne se joignait à nous, nous avons bien assez d'appareils pour fermer le ciel de cette région à l'aviation syrienne et d'une pierre, quatre coups, mettre fin aux martyrs des déplacés d'Idlib, faire cesser les affrontements syro-turcs, écarter la possibilité d'un conflit russo-turc et conduire la Turquie à renoncer au chantage à l'ouverture de ses frontières avec l'Union. À l'heure où l'on parle de la nécessité d'une défense européenne, les Américains l'entendraient et le drame d'Idlib poserait ainsi les différences de priorité entre les États-Unis et l'Union européenne, la nécessité qui en résulte d'une autonomie stratégique de l'Europe et le besoin de pérennité de l'Alliance Atlantique au sein de laquelle il doit y avoir répartition des tâches entre ses piliers américains et européens. Un signal fort serait ainsi également adressé au Kremlin. Jean Ziegler, qui publie une enquête sur l'île de Lesbos, le symbole du plus grand fiasco moral et politique de l'Europe, dénonce l'abandon de la Grèce et des migrants du fait de la paralysie des institutions européennes, traumatisées par la montée de l'extrême droite et des mouvements populistes, alors que selon lui, plus les institutions européennes reculent sur ce sujet, plus les extrêmes droites se sentent confortées et puissantes. Le sociologue suisse, vice-président du Comité consultatif pour les droits de l'homme de l'ONU, souligne que renoncer à imposer le plan de relocalisation des réfugiés et les laisser dans un tel abandon est une sorte de Munich. On renonce à notre morale et on aura quand même l'extrême droite. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, l'heure de vous retrouver Julie Gacon avec les enjeux internationaux.
Bonjour Jacques.
Bonjour. Et on file avec vous, je vous passe le témoin, avec vous et votre invité, donc aux États-Unis pour une première analyse des résultats du Super Tuesday.
Oui, 14 États dont la Californie et le Texas votaient cette nuit pour les primaires et désignent donc ce matin un bon tiers des délégués appelés à désigner le démocrate en lice face à Donald Trump pour la Maison Blanche. Joe Biden est le grand vainqueur de ce Super Tuesday. On va y revenir avec Corentin Célin. Et c'est bien entre deux hommes de plus de 75 ans que cela se joue désormais. Bernie Sanders d'un côté et Joe Biden de l'autre. De vote en vote, de désistement de candidat en désistement, la bataille d'idées se fait plus nette, un affrontement structurel. Qui a écrit que sur le plan intellectuel, l'idéologie de la gauche américaine était devenue aussi stimulante que le mobilier d'un motel? C'était Norman Mailer dans l'Amérique dans les années 90 et la gauche semble avoir repris des couleurs. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis, chroniqueur pour le site Les Jours. Il faut d'abord évidemment, Corentin Célin, faire un point sur l'équilibre des forces tel qu'il se dessine ce matin. Une agence de presse, pour l'instant, donne les résultats de la Californie. Les bureaux de vote sont restés ouverts très tard. Et voilà, Bernie Sanders est en tête, mais c'est pas une victoire si nette, en tout cas pour lui cette nuit.
Non, effectivement, un peu un bilan contrasté. C'est une très très belle nuit de Super Tuesday pour Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, qui a accumulé des victoires dans les primaires du Sud en particulier, mais pas seulement. Il a remporté aussi des victoires importantes au Massachusetts et au Minnesota, mais en fin de nuit, par le jeu du décalage horaire, Bernie Sanders a été déclaré déjà vainqueur par l'Associated Press, qui fait référence en Californie, donc qui est, faut le rappeler, le plus grand État, celui qui offre plus de 10% du total des délégués à la convention démocrate. Donc Bernie Sanders pourra en quelque sorte dire « bon, j'ai gagné la Californie », mais incontestablement une très belle nuit pour Joe Biden.
Ça veut dire que tous les désistements, ceux de Pete Buttigieg, ceux d'Amy Klobuchar et ceux du Texan Beto O'Rourke ont profité à Joe Biden?
Oui, absolument. Et même, alors, ce qui est très impressionnant sur les premières données dont on dispose, c'est qu'il y a vraiment eu des reports massifs et C'est assez rare en politique américaine, vraiment des reports stricts, quasiment militaires. Je pense en particulier à l'État du Minnesota. La sénatrice Amy Klobuchar, qui était en lice jusqu'à il y a 36 heures, s'est désistée en faveur de Joe Biden, puisqu'elle était elle aussi sur une position très social-libérale, centriste. Et le Minnesota, à la surprise générale, a choisi Biden devant Sanders, alors que le Minnesota est un État de tradition progressiste. Et on a vu que bien les électeurs de Klobuchar, j'allais dire comme un seul homme, se sont reportés sur Joe Biden en 36 heures. Donc c'est vraiment très étonnant.
Bernie Sanders, lui, il est donné victorieux donc en Californie, vous le disiez, dans le Vermont, État dont il est sénateur, le Colorado. On ne peut pas pour autant parler d'une très bonne nuit pour lui, mais que dit par exemple le taux de participation de l'enthousiasme que suscite Bernie Sanders, puisqu'il est censé s'adresser aussi à des Américains qui votent moins, qui ont perdu confiance dans la politique. Qu'est-ce que ça révèle ce matin?
Alors si on regarde évidemment les sondages sortis des urnes dont on dispose pour tous ces États, ce qui est frappant, c'est que à la fois au sud, par exemple en Virginie, oui, il y a une très forte mobilisation, il y a une très bonne participation, ce qui est bon signe ça par rapport à l'élection générale à venir contre Trump. Mais Bernie Sanders a un énorme problème avec les Afro-Américains. Il n'a quasiment pas progressé d'un pouce depuis 2016 avec cet électorat afro-américain. Or, dans le Sud, cet électorat représente un quart, jusqu'à 30%, voire un petit peu plus parfois, de l'électorat qui a voté cette nuit. Et Bernie Sanders ne dépasse pas avec eux 20%. Donc, il y a un vrai problème là. Donc, une participation, oui, en hausse, on voit de l'enthousiasme. Mais Sanders n'en profite que à l'ouest, puisqu'on voit qu'il est très fort à l'ouest, en Utah, au Colorado et évidemment en Californie, parce que là, il est arrivé à faire voter un électorat plus jeune et où dominent non pas les Afro-Américains, mais davantage la minorité hispanique, qui lui est très favorable. Et c'est ce qui explique ses victoires au Colorado, en Utah et en Californie. Donc on voit bien un pari, comme que vous évoquiez, d'avoir un nouvel électorat qui n'est pas concluant, parce que avec les socles traditionnels du Parti démocrate et en particulier les Afro-Américains, Sanders n'y arrive toujours pas.
Alors c'était le premier scrutin pour Michael Bloomberg. Est-ce qu'il a bien fait de dépenser plus d'un demi-milliard de sa fortune personnelle pour sa campagne et ce scrutin, ces 14 scrutins?
Eh bien la réponse est nette, non. Donc car pour Bloomberg, c'est par contre alors là incontestablement une très mauvaise nuit. Il ne remporte aucune primaire. Mais j'allais dire que ça, c'est pas le plus important. Dans les États du Sud qu'on évoquait, les États où l'électorat démocrate est plus conservateur et plus modéré, où il y a une forte part d'Afro-Américains, et c'était ces États-là qu'il visait en priorité, ses électeurs sont partis directement sur Biden. Donc ça, c'est très mauvais pour lui. Et l'ironie de l'histoire, ouais, c'est que les électorats qu'il arrive à gagner, c'est dans l'Ouest. Il est haut dans le Colorado. Apparemment, il serait haut en Californie. Et donc, il a dépensé au moins 600 millions de dollars pour faire gagner Bernie Sanders, en quelque sorte. Donc, c'est quand même une énorme ironie de l'histoire.
Un dernier mot, évidemment, Elizabeth Warren, elle est souvent troisième, quatrième dans les scrutins, même dans son fief. Le Massachusetts, elle misait sur cet État dont elle est sénatrice. Joe Biden l'a largement devancée. Est-ce que le Super Tuesday va forcer encore des abandons?
Oui, bien sûr. Alors, dans le cas de Warren, bon, rien n'empêche de continuer, on peut pas la mettre dehors, mais quand vous finissez troisième de l'État que vous représentez au Sénat, avec à peine 20% des voix, ça paraît très difficile de continuer à être candidat à la présidentielle. Il faut rappeler qu'Elizabeth Warren n'a gagné aucune primaire.
Donc se dessine une fin de primaire entre hommes, Corentin Célin, alors qu'on avait des candidates chevronnées, c'était pas les nés de la dernière pluie.
Oui, alors c'est vraiment effectivement une leçon historique qu'on peut déjà tirer. C'est une nouvelle occasion manquée pour les femmes aux États-Unis, pour les femmes en politique. Cette élection 2020 présentait un large éventail de femmes sénatrices de grands États. On a cité Amy Klobuchar, évidemment Kamala Harris de Californie. Qu'est-ce qu'on constate à l'arrivée? eh bien, la primaire démocrate se jouera entre deux hommes blancs de 77 et 78 ans actuellement.
Joe Biden a fait montre quand même d'une petite perte de mémoire là, cette nuit, pendant le Super Tuesday.
Oui, alors ouais. Effectivement, ce sera peut-être une des légères nuances de sa très bonne nuit, puisqu'il a, il a confondu sa femme avec une autre personne de sa famille, bon, ce qui a jeté un petit froid. Mais pour revenir vraiment, cette absence des femmes au plus haut niveau de la présidentielle états-unienne. Il faut rappeler qu'à l'heure où on se parle, seule dans l'histoire américaine, Hillary Clinton a gagné une primaire à déléguer. Ça pose quand même question. Ça pose question. Et ce non-renouvellement aussi des élites démocrates pose également question, surtout pour un parti qui, il faut le rappeler, se prétend, s'affirme comme celui des minorités et de la diversité.
Donc avec deux hommes de plus de 75 ans, ce qui est quand même une hypothèque assez impressionnante sur la présidentielle, Corentin Célin, qu'est-ce qui se dessine en termes de bataille d'idées, d'affrontement idéologique qui devient d'autant plus net que le camp, disons, centriste s'est pas mal éclairci ces derniers jours?
Oui, alors ça c'est vraiment aussi une grande nouveauté, parce que comme en 2016, mais en 2016 beaucoup de choses tournaient autour de la personnalité de Clinton, de l'héritage de son mari président. Là, on se retrouve vraiment face à un affrontement au-delà des hommes doctrinal qui est très net maintenant. On a d'un côté Biden qui incarne ce social-libéralisme qui domine depuis 1992 et justement Bill Clinton, le parti démocrate, ce qu'on appelle la troisième voie aussi, hein, ce qu'on appelle la troisième voie, c'est-à-dire de compromis avec le capitalisme libéral, de réformisme très graduel et qui en plus, dans le cas de Biden, revient à dire il faut recommencer Obama, dont j'ai été le vice-président. Il faut revenir à Obama, aux temps heureux d'Obama. Et face à ça, on a Bernie Sanders qui a réussi à réunir sur sa personne tous les courants de la gauche états-unienne, à la fois la gauche culturelle, la gauche aussi rooseveltienne, cette idée qu'il faut une intervention publique forte pour réguler le capitalisme libéral. Il est aussi porteur de ce populisme de gauche qui est très ancien aux États-Unis, hein, qui remonte à la fin du 19e siècle. Bernie Sanders, c'est aussi le petit citoyen américain, l'honnête citoyen américain face aux gros milliardaires, aux gros capitalistes. Et donc, on a cet affrontement maintenant qui est très net avec des différences de programme énormes. Et tout l'enjeu, désormais, ça va être de s'affronter sans mettre en péril les chances de celui qui sortira vainqueur de la bataille face à Trump en novembre. Il faut se disputer sans se déchirer de manière irrémédiable. Et c'est ça toute la complication de l'affaire.
Trump, ce qu'il adorerait, c'est être face à Bernie Sanders, dont il est à peu près sûr qu'il fait encore beaucoup trop peur aux électeurs américains en se présentant comme socialiste. C'est ça, c'est ce qu'il... En tout cas, selon qui l'emportera à l'issue de ses primaires, ce sera plus du tout la même campagne face à Donald Trump.
Oui, bien sûr. Mais il faut quand même se méfier des on dirait presque en anglais, des mind games, des jeux d'esprit de Donald Trump. Quand on voit Donald Trump dire « Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais affronter Bernie Sanders ?» Peut-être que les démocrates devraient réfléchir à quelques instants si ce n'est pas justement un piège. Et est-ce que Donald Trump doit être un facteur dans le choix des démocrates? Ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, il ne faut pas se fier à des sondages qui d'ailleurs sont très contradictoires. Il y a beaucoup de sondages qui disent que Sanders pourrait tout à fait l'emporter aussi bien que Biden, voire mieux, contre Trump. Il ne faut pas se fier à des sondages, des impressions. On saura les chances du candidat démocrate une fois qu'il aura été désigné, et pour l'instant il ne l'a pas été. Donc, et se méfier peut-être aussi des manipulations de Trump par rapport au scrutin démocrate.
En tout cas, le prochain débat démocrate va coûter cher, Corentin Célin.
Ah oui, ouais. Puisque dans le prochain débat démocrate, on aura deux hommes face à face sur deux lignes doctrinales.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. On peut vous lire sur le site lesjours.fr où vous chroniquez cette campagne électorale. Je vous souhaite une bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Un peu, beaucoup, passionnément, et puis moins parfois. L'amour, toujours l'amour. Sonia Kronlund.
Un psychiatre et une psychologue reçoivent des couples en crise. Entrez dans leur intimité et suivez leur histoire. Trois couples, cinq épisodes, pas mal de ressentiments, mais beaucoup d'espoir. C'est la Clinique de l'amour, le nouveau podcast des Pieds sur Terre, raconté par Delphine Saltel.
La Clinique de l'amour, nouvelle série en podcast original des Pieds sur Terre sur franceculture.fr, l'appli Radio France et toutes les plateformes dédiées.
L'information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Bon, vous avez entendu le message, Guillaume Bernard.
Oui, je l'ai entendu. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Bon, bah alors peut-être faut-il stocker du riz et des pâtes.
Oui, stocker des pâtes. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas un peu un complot italien. Vous voyez, ils nous donnent le coronavirus pour mieux vendre leurs pâtes. Non, je vais être franc avec vous, Julie. La France a 2 mois de stock de pâtes. Moi aussi.
2 mois ?
Il se trouve que j'ai souvent des difficultés pour trouver des pappardelles et que les pâtes au cèpe, je veux dire les capellini au cèpe par exemple, c'est pas possible. Il faut des pappardelles, n'importe quel Italien qui soit porteur ou non du Covid-19 vous le dira. Une sauce copieuse appelle des pâtes longues et larges, tandis qu'une sauce estivale, par exemple ail et huile d'olive, se conjugue très bien avec des pâtes fines et longues, comme par exemple des capellini. Mais voilà, dans mon carrefour, on est souvent en rupture de pappardelles, du coup je stocke. Nonobstant ce constat, le panneau apposé par l'hypermarché, faut-il stocker des riz et des pâtes ? Eh bien, il faut stocker parce que la plupart du temps, la vraie difficulté pour faire des pappardelles au cèpe, cette difficulté n'est pas posée par les pappardelles, mais bien par les cèpes où les trouver. Je vous rappelle qu'on a quand même connu dans la Drôme 2 années consécutives sans champignons ou presque. Ce raisonnement vaut pour d'autres recettes de pâtes chaque semaine ou presque. Je me dis qu'il faut que je stocke de la poutargue. C'est pas la peine de m'écrire, on dit poutargue ou boutargue, des œufs de mulet salés et séchés, parfait avec un peu d'ail. Sauf que la poutargue est bien difficile à trouver. Alors pour toutes ces raisons, les Français sont bien irrationnels de stocker des pâtes quand il leur faudrait stocker des cèpes et des poutargues, d'autant que j'ai lu hier que nos compatriotes avaient même fait des stocks de pâtes fraîches. Mais oui, les stocks de pâtes fraîches ont augmenté de 25%. Alors comment dire, les pâtes fraîches, ça se conserve rarement plus d'une semaine. Et puis moi, je déteste ça. Je suis comme vous, Julie. Je trouve que ça ne tient pas du tout à la cuisson. Alors quitte à être en quarantaine, autant manger de bonnes pâtes. Par ailleurs, je ne veux pas vous inquiéter, mais on est également en rupture de stock de solutions désinfectantes hydroalcooliques.
Corentin, c'est là, on a plein.
Eh ben, mais ça, c'est très utile, vous savez. Pour se laver les mains, c'est pas essentiel du tout. En revanche, quand je vois certaines sauces pour pâtes commercialisées, je me dis que mettre un peu de solution hydroalcoolique là-dedans, ça peut pas faire de mal.